Scandale, horreur, vous allez m'interdire ça.
Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure.
Mais moi, j'ai jamais cherché à faire scandale. Je parle français, c'est tout. J'ai jamais fait autre chose, moi.
La maison de disque, à l'époque, m'avait dit, mais il n'y a pas de cas, ça va jamais à la radio, ça va être interdit et censuré. Donc, ouais. Donc on avait changé le texte.
Les maisons de disques ont une idée sur ce qui doit être l'image d'un chanteur et passent leur temps à dire tu ne peux pas chanter ça, tu vas casser ton image, tu ne peux pas parler de politique, tu ne peux pas dire pour qui tu votes, tu ne peux pas parler de ta sexualité, etc.
Avec le visa radiodiffusion interdite par le comité d'écoute, c'était une chanson censurée à l'époque de sa sortie en 1959, c'est pourtant pas très méchant.
Messieurs les censeurs, bonsoir.
Liste noire.
Depuis que la musique existe, des formes de censure, plus ou moins élaborées et revendiquées, ont tenté et parfois réussi à la faire taire. Qui décide de la censure ? Le pouvoir, étatique, institutionnel ou privé. Véritable limitation arbitraire de la liberté de création et d'expression, la censure préventive ou répressive est symptomatique des doctrines et des mentalités de son époque. Les raisons évoquées pour justifier ces décisions liberticides, elles sont toujours d'origine idéologique, qu'elles soient politiques, religieuses, moralistes, ségrégationnistes, machistes, radicalistes et j'en passe. Sur tous les continents, à toutes les époques, des compositeurs, paroliers, interprètes ont subi, de manière ponctuelle ou définitive, des interdictions d'enregistrement, de représentation publique, de vente d'albums, de diffusion radio ou télé.
Liste noire.
Alors attention, prévenez dès maintenant vos oreilles, toutes les chansons que vous allez entendre au cours de cette émission ont fait l'objet, un jour, quelque part, d'une censure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Liste Noire, bienvenue dans l'histoire des musiques interdites.
Liste Noire.
Dans l'identité humaine, Edgar Morin écrit « Le rock devient le noyau d'une culture juvénile internationalisée qui permet aux adolescents de tous les pays de communiquer et de communier. »
Ce qui est formidable dans la musique, c'est l'harmonie que ça crée.
Entre les individus,
oui.
Qui veut dire que c'est un moyen de communication et de fraternisation. Et de...
C'est la même chose avec la danse.
Il est vrai que le rock, dès son origine, est une musique écoutée, adoptée, même adulée par un public jeune. Plus qu'un simple genre musical, il est le symbole d'une soif d'émancipation, de différenciation. Pour ceux qui l'écoutent, il apparaît comme une opposition aux aînés, à leur vision supposée étriquée de la vie. Le rock est une revendication, une manière de défendre son unicité, telle est sa raison d'être. Il incarne l'envie de découverte, le désir d'expériences nouvelles. Les amateurs de rock ont soif de transgression, ils recherchent l'ivresse de la liberté. Le rock est la réponse à un désir brut, parfois bestial, d'exprimer l'indicible. Accusé de satanisme, d'être la musique du diable, il a pourtant souvent prôné l'amour. Adepte de la rupture, il s'oppose au passé, promet un présent plus vivant, plus intense, plus jouissif, allant même parfois jusqu'à refuser l'avenir. En grandissant, le rock s'est esthétisé, poétisé, engagé pour des causes. Il est devenu un véritable art de vivre générationnel et communautaire. Aimant tout autant les mauvaises fréquentations que les convictions les plus humanistes, il se délecte du vice, du sulfureux, mais aussi d'idéaux de paix. Multiple et paradoxal, il exulte de lui à la fois une pulsion de vie et de mort. Il est rebelle, instinctivement désobéissant et spontané. Il est l'esthétique d'opposition par excellence. De quoi inquiéter l'ordre établi qui n'aspire qu'au respect de la tradition et à l'immobilisme. Avec le rock, la censure a trouvé son coupable idéal. Elle s'en est donc donnée à cœur joie, le surveillant de près et l'interdisant dès que possible. On peut dire que ces deux-là se sont trouvés car si la censure aime interdire ceux qui remettent en cause le système, le rock, en définitive, n'a toujours souhaité que cela. Au programme du jour de notre liste noire spéciale rock, nous écouterons entre autres Chuck Berry, les Beatles, les Stones, Cure, Trust et Bob Dylan.
Liste noire. Liste noire.
Le rock est indéniablement le genre musical préféré de la censure. Tant et si bien que les raisons évoquées ont été souvent particulièrement étonnantes, tantôt absurdes, tantôt carrément pathétiques. Rien n'arrête à la censure dans son appétit d'interdiction. L'ogre affamé mange à sans compter, sans limite et sans peur du ridicule. En 1958, Rumble de Link Wray est interdit de diffusion radio aux États-Unis car son titre fait soi-disant référence à la violence juvénile. Détail qui a son importance, il s'agit d'un titre sans parole, totalement instrumental. En 1964, Louie Louie des Kingsmen est banni par le gouverneur de l'Indiana qui voit une chanson pornographique. Une équipe du FBI est mobilisée pendant 31 mois. En vain, elle n'a jamais réussi à déceler la moindre infraction à la loi. À vous de juger, le passage le plus chaud étant, je cite, « Je pense à la fille constamment, sur ce bateau je rêve qu'elle est là, je sens la rose dans ses cheveux. » Cette même année, Gloria du groupe Zem est censurée à cause de la phrase « She comes in my room », ce qui littéralement peut être traduit par « Elle vient dans ma chambre », mais qui peut aussi avoir un sens un peu plus coquin. En 1965, les Who sortent My Generation, que Roger Daltrey chante ainsi. Le titre est interdit de diffusion radio en Angleterre et aux États-Unis, car l'interprétation donne l'impression d'un bégaiement. Ne voulant risquer de choquer les personnes ayant réellement ce problème d'élocution, la censure impose le silence Who. La légende veut que cette manière de chanter soit en réalité une référence au bégaiement provoqué par la prise de LSD, ce qui eût été une raison de plus de le censurer. En 1966, les Beach Boys chantent, ou plutôt tentent de chanter God Only Knows. Certaines régions des États-Unis décident d'interdire sa diffusion pour blasphème. Même si le titre ne contient aucune connotation négative, selon les censeurs, il est considéré comme inacceptable d'utiliser le terme Dieu dans une chanson. 1967, Pictures of Lily des Who, encore eux, est censuré en raison de son évocation de la masturbation. De nouveau, la censure n'y a pas été de main morte. Cette même année, Brown Eyed Girl de Van Morrison est interdite quant à elle car elle traite du sexe avant le mariage. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. 1969, année érotique s'il en est, la police de New York saisit 30 000 copies de l'album Two Virgins de John Lennon et Yoko Ono, en cause la photo de la pochette les montrant dans la tenue d'Adam et Ève. 1976, la station de radio RKO refuse de passer Tonight's the Night de Rod Stewart, car la chanson contient la phrase, tenez-vous bien, Spread your wings and let me come inside, que l'on pourrait traduire par déploie tes ailes et laisse-moi entrer, ce qui est plutôt poétique, non ? 1981, deux stations de radio de Salt Lake City, capitale des Mormons, détail qui a son importance, interdisent la chanson Physical d'Olivia Newton-John. Il est vrai que le refrain dit tout de même « Soyons physiques, je veux devenir physique, passons au physique, laisse-moi entendre ton corps parler ». Et le meilleur pour la fin, au Texas, sur les ondes de radio El Paso, on refusa des années durant de diffuser les chansons de Bob Dylan sous prétexte de sa mauvaise prononciation.
you. The road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us.
Le rock est né aux États-Unis dans les années 50. Dès son premier cri à Saint-Étienne, il sut capter l'attention de son entourage. Les fées, qui se penchèrent sur son berceau, vêtues de Perfecto et de Santiago, lui promirent une grande et longue destinée. Nourrisson, il se fait appeler rock'n'roll. Ses grands frères, le jazz, le blues et la country, l'invitent rapidement à s'émanciper, ce qu'il fit avec beaucoup de ténacité tout au long de sa vie. L'un des tout premiers interprètes de rock'n'roll est Chuck Berry. Il est pour beaucoup Monsieur Rock'n'Roll. Bob Dylan l'a surnommé le Shakespeare du rock'n'roll. Selon Mick Jagger, il a éclairé nos années d'adolescence et animé nos rêves de devenir musicien. Ses paroles brillaient au-dessus de tous et illuminaient étrangement le rêve américain. Pour John Lennon, si on devait donner un autre nom au rock, on pourrait simplement l'appeler Chuck Berry. Devant tous ces compliments, Chuck humblement s'amusait à répondre « Je ne crois pas être le roi du rock'n'roll, mais peut-être le premier ministre ». Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il a véritablement incarné cette musique, la codifiant, la théorisant, établissant ses principaux thèmes, les filles, les voitures, la fête, la liberté, mais aussi le consumérisme. C'est en 1955 que Chuck Berry sort son premier single. C'est l'année de l'ouverture aux États-Unis du premier restaurant McDonald's et du premier parc de loisirs Disneyland.
Now it announces the opening of Disneyland the place. The people and eyes around the world are focused on these 160 acres here in Anaheim, California.
C'est aussi cette année qu'une couturière nommée Rosa Parks refuse de laisser sa place dans un bus de Montgomery en Alabama à un blanc.
Just the other day, one of the fine citizens of our community, Mrs. Rosa Parks, was arrested because she refused to give up her seat for a white passenger.
Quatre jours plus tard, un pasteur, Martin Luther King, lance le boycott des bus de la ville. Le mouvement dure 381 jours. Il est suivi par 95% des Noirs de Montgomery.
I think that whole day we found 8 Negroes on the bus. And from that day on, that boycott was more than 99.9% effective.
Après plus d'un an de boycott, la Cour suprême annule les lois de ségrégation appliquées pour les transports dans le comté de Montgomery.
Strange fruit hanging from the poplar trees.
C'est dans cette Amérique que sort le disque de Chuck Berry, Maybelline. Le titre est inspiré d'une chanson sortie quelques années auparavant, en 1938, Ida Red, de Bob Willis et les Texas Playboys. Dès sa sortie, Maybelline crée la polémique. Ce nouveau genre musical, le rock'n'roll, heurte les oreilles les plus timorées. La chanson a pour sujet l'infidélité. Il n'en faut pas plus pour que la censure tombe. Le titre est interdit de diffusion en télévision et en radio. Pourtant, si le sujet est bien la trahison amoureuse, les paroles la condamnent ouvertement. Comme le refrain ne cesse de le répéter, Chuck Berry veut que Maybelline soit vraie, qu'elle soit engagée, qu'elle soit fidèle. Les véritables raisons de cette censure sont ailleurs. Le fait qu'un chanteur noir ait autant de succès auprès de la jeunesse déplaît fortement à l'establishment, d'autant plus que la majorité de ses fans sont des blancs. Et puis, Chuck, à l'image du rock'n'roll, est un personnage sulfureux. Jeune, à 18 ans, il a braqué 3 magasins et volé une voiture. Le 21 décembre 1959, soit 4 ans après la sortie de Maybelline, il est de nouveau arrêté pour avoir ramené une jeune fille de 14 ans du Mexique et lui avoir offert un travail au club Bandstand, une boîte de nuit. Un premier procès le condamne à 5 ans de prison et 5 000 $ d'amende. Mais la décision est rejetée en appel en raison de l'attitude reconnue comme délibérément raciste du juge. Chuck Berry écope finalement de 20 mois de prison ferme. Maybelline est le premier grand hit de l'histoire du rock. Il est en 18e position du classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps du magazine Rolling Stone.
Maybelline, why can't you be true? Can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a Coupe de Ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8 Ford. A Cadillac
L'année 1965 fut une excellente année pour le rock. En allumant la radio, on pouvait entendre des nouveautés telles que Wilson Pickett chantant In the Midnight Hour, les Burns avec Mr. Tambourine Man, Sonny and Cher avec I Got You Babe, ou encore les Beach Boys et leurs California Girls. Autant dire que le rock était au meilleur de sa forme. L'histoire de la chanson qui nous intéresse maintenant débute un beau jour en pleine nuit. Nous sommes le 6 mai 1965. Keith Richards, 21 ans, est réveillé par une idée de mélodie. Il s'assoit sur le bord de son lit, prend sa guitare, enclenche son magnétophone et joue plusieurs fois le riff qu'il a en tête. Puis il se recouche et se rendort. Le lendemain matin, en se réveillant, il écoute la bande et découvre 2 minutes de guitare acoustique et plus d'une demi-heure de ronflement. Il fait écouter l'extrait à Mick Jagger qui, en quelques heures, écrit les paroles de la chanson. À eux deux, ils viennent de créer ce qui deviendra la plus célèbre chanson du groupe, Satisfaction.
I can't get no satisfaction. I can't get me no
La chanson devient rapidement un hymne contestataire. Elle tombe à pic dans une époque qui vante les joies d'un consumérisme idéalisé, fait de valorisation à outrance de l'argent et d'un marché publicitaire en pleine expansion. Ce monde ne convient pas à la nouvelle génération. Quand sort le titre des Stones, toute une jeunesse se reconnaît dans cette dénonciation, dans ce cri d'insatisfaction. Quand je conduis ma voiture, dit les paroles, un homme passe à la radio. Il m'en dit de plus en plus sur des informations inutiles censées enflammer mon imagination. Quand je regarde la télé, un homme arrive et me dit à quel point mes chemises peuvent être blanches. Si la chanson critique la publicité, l'incitation omniprésente à acheter, créant une véritable aliénation, elle accuse plus globalement la société de consommation d'être responsable de tout un ensemble de frustrations. Des frustrations empêchant d'accéder au sentiment de satisfaction.
«
Le titre sort aux États-Unis le 6 juin. Les événements qui arrivent dans les semaines qui suivent donnent un nouveau sens à ces paroles. Durant l'été 1965, le président Lyndon Johnson envoie de nouvelles troupes au Vietnam. L'armée bombarde massivement le nord du pays pour désorganiser les combattants et affamer la population. Les Américains utilisent des armes chimiques et du napalm sur les civils.
Bleu, blanc, orange. Les Américains désignent avec ces trois couleurs les trois types de défoliants chimiques utilisés au Vietnam pour détruire la végétation. En terminologie militaire, il s'agit d'armes de harcèlement.
Au même moment, à Los Angeles, suite à une altercation entre trois Afro-Américains et des policiers blancs, débutent les émeutes de Watts. L'armée impose un couvre-feu. Après une semaine de violence, on comptabilise plus de 1000 blessés, une trentaine de morts, dont 23 personnes tuées par les forces de l'ordre.
Le quartier noir de Los Angeles s'est révolté. La ville est mise à sac par les émeutiers, des rues entières sont la proie des flammes. Partout, des magasins éventrés, des entrepôts calcinés.
Dans ce contexte, Satisfaction devient une chanson prônant l'insoumission, l'appel à la révolte. La chanson est interdite sur les radios américaines. Officiellement sont en cause des paroles jugées trop obscènes, en particulier le passage où Mick Jagger chante « Quand je voyage autour du monde et que je signe des autographes et que j'essaye de me faire une fille qui me dit « Bébé, repasse la semaine prochaine. Parce que là, tu vois, je vais avoir mes règles. » Je ne peux trouver aucune satisfaction. Aujourd'hui encore, Satisfaction est très certainement l'un des titres rock les plus connus au monde. Selon Mick Jagger, c'est la chanson qui a vraiment fait les Rolling Stones. Elle a un riff très accrocheur et un son de guitare qui était original. Et puis cette chanson a capturé l'esprit de son époque. Et ça, c'est une chose vraiment importante.
liste noire.
Certaines chansons ont des origines insoupçonnables et des destins qui ne le sont pas moins. Un beau jour de l'année 1967, John Lennon parle avec son fils, Julian, 4 ans, de sa journée à l'école maternelle. L'enfant lui montre alors un dessin qu'il vient de faire. Il représente l'une de ses copines, Lucy O'Donnell. Julian tend la grande feuille à son père en lui disant « Regarde, c'est Lucy dans le ciel avec des diamants ». Quelques jours plus tard, Lennon, pensant au dessin et à la phrase de son fils, écrit la chanson « Lucy in the Sky with Diamonds ». Si la première source d'inspiration est ce dessin, Lennon reconnaît que l'aspect surréaliste de ses paroles viennent de l'univers de Lewis Carroll, un auteur qui a bercé son enfance, en particulier avec deux livres, Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir.
Oui, je l'ai entendu dire, mais je croyais que je pouvais...
Faites la révérence au lieu de croire et sachez qu'une tête, ça se coupe.
Oh oui, votre majesté, je voulais demander seulement...
C'est moi qui pose les questions ici. Est-ce que vous savez jouer au croquet?
Oh, oui, votre majesté.
Psychédélique s'il en est, la chanson invite l'auditeur à imaginer le rêve éveillé du conteur. Résultat, on se retrouve dans un monde fantaisiste, joyeux, créatif, naïf, coloré et enfantin. Pourquoi donc la BBC a décidé d'interdire d'antenne cette chanson? Suite à une rumeur, une simple rumeur disant qu'elle était une incitation à la consommation de drogue et plus particulièrement de LSD. Cette substance hallucinogène conçue en Suisse dans les années 40 est fortement appréciée par la Beat Generation américaine. La preuve que la chanson fait référence à cette drogue? Son titre. Si vous prenez les premières lettres de Lucy, Sky et Diamonds, vous avez le supposé message subliminal enfin révélé, LSD. Comme quoi la censure peut parfois faire preuve d'arguments pour le moins stupéfiants lorsqu'elle veut faire tomber son couperet. Plus que ce titre, c'est le groupe en particulier que la BBC a voulu bannir de son antenne. Car si en réalité la chanson ne fait pas référence à la drogue, les Beatles, eux, ont toujours été francs sur le sujet. Oui, ils en consomment. Oui, cela les inspire pour écrire et composer. Et oui, parfois, certaines chansons en parlent. McCartney reconnaît que Day Tripper ou Got to Get You Into My Life évoquent volontairement des drogues telles que le LSD ou la marijuana. Certaines chansons des Beatles évoquent la prise de drogue, mais pas celle-ci. Lucy in the Sky with Diamonds, aussi psychédélique qu'elle soit, reste à son origine un dessin d'enfant, poétique et innocent.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
C'est en 1980 que sort le deuxième album de Trust, Répression. À l'image du groupe de Bernie Bonvoisin, les musiques qui sont généreusement rock et teintées d'une subtile influence de la scène punk anglaise de l'époque. Les paroles, elles, sont directes, puissantes. Elles s'opposent frontalement aux valeurs bourgeoises, mais aussi au capitalisme, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. On y décèle sans peine des idéologies anarchistes, voire révolutionnaires. Le titre phare qui éclaire l'album, c'est l'éblouissant Antisocial. Le titre devient dès sa sortie un véritable phénomène de société, un emblème, un cri de révolte. Il se transforme en slogan hurlé par toute une jeunesse, Antisocial, tu perds ton sang-froid. Selon le Dictionnaire du rock de Mishka Assayas, il est l'hymne qui enterre définitivement les Trente Glorieuses. Antisocial est la chanson d'une génération qui ne croit plus aux espoirs déchus de mai 68. À la fois témoin et victime de la récession économique mondiale, née avec le choc pétrolier de 1973, la jeunesse française souffre de ne plus se sentir acteur de sa vie. Cette chanson lui permet d'exprimer son ras-le-bol, sa déception, sa colère. C'est la totalité du système qui est pointée du doigt, et en particulier ceux qui en sont responsables, ceux qui en sont à sa tête. C'est la France giscardienne qui est ciblée et dénoncée. La chanson a été composée en une demi-heure, durant une répète. Elle est enregistrée dans les locaux londoniens de Sony. Pour la petite histoire, au moment d'ajouter le chœur final, il est alors 21h, tous les employés sont rentrés chez eux. Ne reste que les grands patrons qui acceptent d'être mis à contribution. Ce sont donc eux que l'on entend répéter à tue-tête.
Antisocial, antisocial,
à la fin du morceau. Parmi les reprises les plus mémorables de la chanson, à noter la version espagnole de Los Suaves, mais aussi celle de Florent Pagny ou encore, excusez du peu, de Metallica. Pour les politiques, le discours d'antisocial est inacceptable. La censure tombe. Les municipalités, entre autres, de Sedan, Marseille ou Mâcon, refusent de voir le groupe Trust dans leur ville à l'occasion de leur tournée Répression dans l'Hexagone. Les concerts du groupe sont censurés dans de nombreuses villes. Ce qui n'empêchera pas le disque de se vendre à plusieurs millions d'exemplaires.
Renvoyer la balle, impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu
voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisociable, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. On les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Décembre 1978, un tout jeune groupe nommé The Cure sort son premier 45 tours. Le titre fait référence au livre d'Albert Camus « L'étranger » qui se déroule en Algérie et dont le protagoniste à un moment tue un arabe, sans motivation, aveuglé par le soleil. Le groupe nomme donc son premier single « Killing an Arab ». Pour expliquer sa démarche artistique et éviter toute ambiguïté, le chanteur envoie à Maison de Disques un exemplaire du livre de Camus. Mais dès sa sortie, la chanson fait l'objet d'une récupération de la part de divers groupuscules racistes. Il est même utilisé tel un hymne par le Parti nationaliste anglais. Pour justifier que leur chanson n'a rien d'haineux envers les Arabes, le groupe décide de faire figurer sur tous leurs disques en vente un autocollant sur lequel on peut lire « La chanson Killing an Arab n'a absolument aucune connotation raciste. C'est une chanson qui dénonce l'existence de toute forme de préjugés et de la violence qui en découle. The Cure condamne ceux qui l'utilisent pour favoriser les idées contre les Arabes. » Robert Smith passe des années à expliquer que ce titre est uniquement un hommage à l'œuvre d'Albert Camus. D'ailleurs, les paroles, quand on les écoute, confirment sans équivoque la démarche de son auteur. « Je suis l'étranger, dit la chanson. Tu es un arabe. Je peux me retourner et m'éloigner, ou je peux tirer avec le pistolet, regardant le ciel, regardant fixement le soleil. » Peu à peu, la chanson et sa controverse se font oublier. Mais en 1990, soit 10 ans après sa sortie, le titre fait de nouveau parler de lui lorsqu'arrive la guerre du Golfe.
Bonsoir, le monde entier a soudain pris conscience de la gravité de la situation. Jusqu'à présent, les chefs d'État jouaient à se faire peur et les opinions publiques ne croyaient pas vraiment à la guerre. En quelques heures hier, tout a basculé, l'échec des discussions entre Américains et Irakiens à Genève a, semble-t-il, traumatisé les dirigeants, y compris ceux qui étaient et qui restent déterminés. Par exemple, George Bush, sa première réaction l'illustre, il semblait surtout atterré.
Le groupe doit une fois de plus s'expliquer, car des radios diffusent la chanson en l'annonçant comme ayant une idéologie guerrière. La BBC décide alors de la censurer de son antenne. Pour Robert Smith, c'en est trop. Il n'accepte plus le détournement que l'on fait de son texte. Il annonce qu'il engagera désormais des poursuites judiciaires envers toute personne ou média qui utilisera sa chanson à des fins de propagande raciste anti-arabe. Dans les années qui suivent, et afin de faire définitivement cesser toute forme de polémique, le chanteur décide de modifier les paroles lorsqu'il interprète la chanson sur scène. Il chante parfois « Killing an Englishman », tuer un Anglais, « Killing another », tuer un autre, ou encore, afin de faire taire à tout jamais cette polémique, « Kissing an Arab », embrasser un Arabe. Et de nos jours, qu'en est-il ? Le rock pose-t-il encore problème ? Fait-il toujours peur ? Est-il encore censuré ? En 2019, suite au témoignage de deux présumées victimes de Michael Jackson, dans le documentaire Living Neverland de Dan Reed, la BBC décide de ne plus diffuser de chansons de l'artiste. Trois grandes stations de radio à Montréal, au Canada, appliquent la même censure. Une porte-parole des stations explique que la décision intervient en réponse aux réactions des auditeurs. En Chine, en 2015, la chanson « Yo Heang Yao Zhuai » de Shouan est interdite parce que trop sexuelle. Selon Google Traduction, pardon pour les éventuelles approximations, la chanson débute ainsi. « Ton corps danse et se balance devant moi. Je suis tellement mal à l'aise de le regarder. J'ai hâte de mettre ma main sur toi et de ne jamais partir. » Bon, jusque-là, tout va bien. Mais il est vrai qu'à un moment, ça se corse un peu tout de même avec « Je veux du sexe. Viens ici. Laisse-moi te tenir debout. Je veux faire l'amour. » Voici donc, et pour terminer, du rock chinois censuré pour incitation à faire du sexe et l'amour.
Shine.
venez d'écouter La Liste Noire du Rock, un programme imaginé par Laurent Nègre. Coproduction et réalisation Alexandre Lemierre. Programmation musicale François Piton. Attaché de production Cécile Claire. Coproduction, texte et animation Bertrand Bichot. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou les autres de la série, rendez-vous sur la page de Liste Noire sur le site rts.ch. Je vous souhaite une très belle fin de journée à l'écoute des programmes de la première et on se retrouve dimanche prochain à partir de 16h pour un nouvel épisode de Liste Noire, l'histoire des chansons interdites. Tout de suite, une inforoute.
Infotrafic RTS.
La circulation s'écoule sans difficulté en Suisse romande. Sur l'axe Genève-Aoste, on annonce 1h15 d'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc. Sur l'axe du Gothard, des colonnes s'étendent des deux côtés du tunnel, 3 km entre Vassen et l'entrée nord du tunnel en direction du Tessin, ce qui représente une attente d'une demi-heure environ, et 3 km entre Quinto et le portail sud en direction de Lucerne, soit 3 quarts d'heure d'attente environ. Davantage d'informations sur le trafic ou l'état des routes en Suisse sont disponibles au numéro 163 au prix de 90 centimes l'appel, puis 90 centimes la minute.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
La première vous offre l'heure.
La première, il est 17h.